Voilà, nous continuons sur Exode 34. Exode 34. Nous allons lire du premier verset au verset 10.
Exode 34, verset 1 au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. »
Voilà, on peut s'arrêter là et prends-nous pour ta possession. Voilà, donc le Seigneur, maintenant, puisque les tables ont été brisées, hein, donc quand Moïse retournait de la montagne et il a entendu que les gens adoraient le veau d'or, dans la colère, il a laissé tomber les tables qui se sont brisées. Donc c'était un symbole aussi du fait que l'alliance était brisée, l'alliance était coupée. Et là, le Seigneur dit à Moïse de remonter à la montagne, là où il va encore avec des tables, cette fois-ci que Moïse lui-même va tailler et ramener afin que le Seigneur lui-même écrive dessus. Et donc c'est ainsi que Moïse monte avec cela et Dieu lui-même proclame combien il est, il proclame ses qualités extraordinaires. Il dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième génération, troisième et à la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Quand Dieu énonce ces qualités-là, ce qu'il est, c'est en notre faveur. En fait, c'est comme c'est écrit dans Jacques 4 que Dieu aime à la jalousie l'esprit qui est en nous. Donc Dieu, en quelque sorte, c'est comme si il voulait dire aux humains, mais regardez, vous avez un Dieu merveilleux. C'est comme si il prenait la place des humains pour dire, mais vous ne vous rendez pas compte, je suis presque jaloux de vous d'avoir que vous ayez un tel Dieu qui soit lent à la colère, miséricordieux, mais attention, qui ne va pas considérer le coupable pour innocent. C'est-à-dire, attention, il est miséricordieux, il est amour. Dieu, c'est comme s'il est jaloux que nous l'ayons comme Dieu lui-même. Donc, il sait quel bénéfice de l'avoir comme Dieu. Et il le proclame à Moïse lui-même pour que Moïse saisisse. Mais à quel Dieu tu as affaire? Et Moïse saisit, Moïse se prosterne et adore. Il reconnaît que c'est un privilège d'avoir Dieu comme Dieu. Et Je crois aussi que un des problèmes qui explique la non-conversion des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas à quel Dieu ils ont affaire. D'où notre rôle de dire aux gens qui est Dieu, soit par la parole, soit par notre vie avec lui. Donc notre vie avec lui permet aux gens de savoir à quel Dieu ils ont affaire et parfois ça les aide à se positionner pour venir à Dieu. Donc beaucoup de choses sont dues au fait qu'il y a un manque d'information et c'est nous les principaux vecteurs de cette information par notre parole, par nos invitations quand on invite les gens à venir écouter, par la distribution des tracts, par la distribution des versets, par toutes sortes de moyens, on permet aux gens d'être au courant à propos de notre Dieu, de savoir mais à quel Dieu nous avons affaire. Et Dieu lui-même présente cela et Moïse est impressionné, il adore. Et nous devons nous souvenir de ça, de ces qualités que le Seigneur donne là. Je vais relire ces qualités. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » On a dit lent à la colère, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais de colère. Il peut se fâcher, mais c'est lent. Il est lent à arriver à cela, mais il ne faut pas se tromper et abuser. Voilà, riche en bonté et en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. C'est pourquoi l'alliance telle qu'elle va être signée, elle est signée en fonction de ce que le peuple doit faire, donc c'est la parole, mais elle est signée aussi par rapport à la construction du tabernacle. Vous voyez, donc il y a les deux choses qui viennent en même temps, la construction du tabernacle et l'énoncé de la parole. Pourquoi les deux en même temps? Parce que l'énoncé de la parole montre ce qu'on doit faire pour être agréable à Dieu et le tabernacle est là pour nous accorder le pardon. Parce que le tabernacle, qu'est-ce qui se faisait de principal là-bas? C'est le sacrifice du rachat du peuple. Donc Dieu conscient que l'homme va pécher, il a prévu le tabernacle pour permettre ce pardon-là. Donc ça va ensemble, parce qu'il sait que la loi qu'il donne ne sera pas vraiment respectée. Alors il faut le tabernacle pour permettre le pardon. Et il explique ça à Moïse, il dit, voilà, je suis le Dieu qui pardonne, mais je suis aussi saint. Donc je ne peux pas prendre le coupable pour innocent. Donc le coupable doit passer par le tabernacle. Et qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Moïse réitère encore la prière qu'il avait faite quand Dieu lui avait dit, « Écoutez, moi je vais honorer ma part, je vais vous donner la terre promise, mais je ne serai plus avec vous. Je vous donne la terre promise, débrouillez-vous. » Moïse dit non, que nous soyons ton peuple, c'est mieux que tout. Que tu sois au milieu de nous, que c'est mieux que tout. Et je pense que les gens qui connaissent vraiment Dieu vont préférer cela plus que tout. Je sais que nous avons soif de miracles, nous avons soif de la puissance de Dieu, nous avons soif de voir des multitudes se convertir. On a soif en quelque sorte, du Messie puissant. Mais il faut savoir que le Messie, il y a eu le Messie aussi qui souffrant. Donc on doit accepter les deux. Pas seulement le Messie puissant qui vient délivrer et faire des exploits. C'est pourquoi Pierre n'a pas accepté quand Jésus disait « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup ». Pierre n'a pas accepté parce que l'idée c'est le Messie puissant. Et nous aussi, comme on est des humains, on a toujours la pensée du héros qui vient nous délivrer et étant devenu serviteur de Dieu, on a la logique qu'il est tout puissant, donc nous aussi on doit être tout puissant, et c'est vrai d'une certaine manière, mais le problème du péché fait que même les héros doivent souffrir. S'il n'y avait pas le problème de péché, on n'aurait qu'un héros puissant qui vient nous délivrer. Regardez même en Égypte, qu'est-ce qui s'était passé. Il a fallu qu'on tue l'agneau pour que le peuple sorte. Il a fallu une souffrance. Donc le problème du péché entraîne la souffrance même des élus. Il faut, ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se résigner à l'échec, non. En même temps que nous professons le Dieu Tout-Puissant, nous professons ce que lui-même a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, en même temps, nous devons nous préparer aussi à la souffrance. Si on ne se prépare pas à la souffrance, on sera surpris et on réagira mal. Et beaucoup renieront le Seigneur. Il faut les deux. En même temps que nous professons le Dieu Tout-Puissant, préparons-nous aussi à la souffrance. Il y a Richard Rembrandt qui a dit, le monsieur qui avait fait la plus belle chanson, humainement parlant, chrétienne en Roumanie à leur époque, ce monsieur-là, quand on les a arrêtés, soit entrés en prison, il a renié le Seigneur et il a fait la plus belle chanson communiste de l'époque. C'est pour dire que nous devons nous préparer aux deux. C'est vrai que nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir sa puissance et on va voir cela parce qu'il a dit « quiconque croit verra ma gloire ». Mais nous devons nous préparer à la souffrance parce que la terre doit son rachat par la souffrance des justes. C'est-à-dire que pour que les païens soient rachetés, ça passe par la souffrance des justes. Donc il faut accepter ce processus-là. Et c'est ça qui explique la miséricorde, la bonté de Dieu, jusqu'au point de faire souffrir les siens pour les mauvais. C'est ça sa miséricorde. Avoir un tel Dieu, c'est extraordinaire et ça nous devrait nous consoler et nous donner le repos malgré le tonne de difficultés qu'on peut rencontrer sur terre. Donc nous ne nous étonnions pas de la difficulté, de la souffrance. Ça fait partie du chemin des élus afin d'obtenir un salut total propre, pas un salut comme juste un vêtement, mais une transformation de l'intérieur. Et c'est ce que Moïse a compris. Et il demande à Dieu, il dit, Dieu, sois avec nous. Nous ne voulons pas juste la terre promise, mais sois avec nous. Sois avec nous. Parce que si tu n'es pas avec nous, malgré la terre promise, on sera malheureux. On sera malheureux, il va y avoir des guerres, il va y avoir des jalousies entre nous, il va y avoir beaucoup de problèmes. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, demandons à ce qu'il soit avec nous. Vous savez, même si en tant qu'humains et conformément aux promesses du Seigneur, nous attendons à des résultats, mais que l'amour des résultats ne nous enlève pas l'amour pour la présence divine, l'accompagnement divin. Que les deux soient là, mais en priorité, l'amour pour la présence de Dieu. De sorte que même quand le résultat n'est pas là, on dit, Abraham non plus n'a pas vu ce qu'on lui avait promis, mais il est resté ferme dans le Seigneur. Tant que le Seigneur était à ses côtés, c'était suffisant pour lui. Donc acceptons, même s'il y a une voix douce, subtil du diable qui va t'attaquer en disant « Mais où sont les résultats ?» On est des humains, en ce moment-là, on est parfois déstabilisés. Cherchons plutôt à savoir est-ce que Dieu est avec moi ou pas. Si on a fait le tour de la question, on réalise que Dieu est là, on continue notre marche. On ne bouge pas, on continue notre marche, Dieu sait ce qu'il fait. Et si vraiment quelqu'un a goûté à qui est Dieu, il ne peut pas accepter juste les cadeaux de Dieu sans Dieu. Il y a des moments où Dieu, pour ceux qui sont attachés à Dieu, les bénédictions sont là. Quand les bénédictions viennent, ils n'ont même pas goût à ces bénédictions-là. Parce que c'est le temps d'attente de recevoir ce qu'ils cherchaient les a amenés dans une vraie communion avec Dieu. Et maintenant, quand Dieu donne ce qu'ils attendaient, le goût n'y est même plus, parce que Dieu a pris toute la place. C'est ça l'objectif de Dieu. Il a dit, je t'amènerai, hein, il a dit, je t'amènerai dans le désert, tu ne m'appelleras plus, je ne t'appellerai plus ton serviteur, mais tu m'appelleras plutôt mon mari. Donc la relation va être proche. Et quand maintenant Dieu donne ce que tu cherchais tant, tu n'as plus goût, parce que tu as appris à aimer la présence de Dieu. Et Moïse avait appris ça. Il dit, Seigneur, ce qui importe, c'est que nous soyons ton peuple. Ce n'est pas la terre promise, ce n'est pas les victoires, c'est toi que nous voulons. Bien-aimé, c'est ça que nous devons rechercher. Les choses sont très difficiles sans Dieu. Beaucoup se sont perdus sans Dieu. Ils voulaient tellement des choses et Dieu a fini par donner parce que on va pas, Dieu a dit dans sa parole, on ne le trouvera jamais menteur. Tout ce qu'il a dit dans ses promesses, il accomplira. Et c'est pourquoi vous étonnez que mais Dieu savait qu'un tel allait chuter, il lui a donné quand même. Oui, parce qu'il ne veut pas qu'un jour l'autre accuse. Mais oui, mais toi tu avais promis, tu n'as jamais donné. Dieu donnera. Quand tu insistes, tu dis mais c'est écrit. Chaque jour tu le fais. Même si Dieu voit bien que tu n'es pas encore prêt à recevoir la bénédiction, il te donnera pour que tu le traites pas de menteur. Mais la fin est toujours difficile pour ce genre de personnes. Voilà, il y a même l'homme selon le cœur de Dieu, David, a insisté pour dénombrer le peuple. Dieu a dit, bon, dans ce cas, le fais-le. Dieu avait dit non, mais il a fini par céder. Et on sait comment ça a fini. Ça a été une grande calamité dans le peuple et dans son cœur. Donc faisons en sorte de comprendre, de chercher la présence de Dieu. Comprenons que c'est ça qui est le plus important, plus que tout. Faire la volonté de Dieu, être avec lui, c'est pas dans notre schéma, c'était pas prévu dans notre schéma d'aujourd'hui, mais on va le lire, le psaume 17, le dernier verset, psaume 17, verset, dernier verset.
Psaume 17, dernier verset, verset 15. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.
Est-ce qu'on peut lire maintenant le verset 16 pour bien mieux comprendre le verset 10, et le verset 14 pour mieux comprendre le verset 15.
Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.
Amen. Je veux me rassasier de ton image. Donc David dit quoi? David dit, les gens méchants, ils sont remplis de richesses, ils sont remplis de biens, ils sont remplis de résultats. Bien-aimé, quand vous voyez la finale d'un match de football, le résultat, c'est là, c'est plein. Et tellement que le dernier match de basket, il y a une place qui a été vendue à combien? J'ai oublié le prix, à 6 000 $, je crois, ou plus. Une place a été vendue à plus de 6 000 $. Donc, il y a le résultat qui est là. Il a dit, mais eux, ils ont tout ça. Ils ont les résultats, ils ont la foule, ils ont les biens. C'est des méchants, mais ils ont tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que j'ai le contrepoids de ce qu'ils ont. C'est-à-dire, moi aussi, une foule, moi aussi, des enfants qui sont très riches. Non, moi, ce que je veux, c'est me rassasier. Est-ce que tu peux lire le verset 15, hein?
Pour moi, dans la justice, je verrai ta face.
Voilà, pour moi, dans la justice, mais dans d'autres versions, c'est écrit dans mon innocence. C'est-à-dire, mon innocence me permettra de voir ta face. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Un vrai enfant de Dieu fait de cela son objectif. Dans mon innocence, m'autorise. Hein. Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur. La suite, c'est quoi? Ils verront Dieu. Donc, dans mon innocence, je verrai ta face. Et dès le réveil, je cherche quoi? À me rassasier de ton image. Que tu sois là à mes côtés m'intéresse plus que tout, sans qu'on néglige les autres choses. David, qui dit ça, était bien roi. Il avait plus de richesses que tous tels qu'on est là, plus que les faux pasteurs qui parlent trop d'argent aujourd'hui. David les dépassait en richesse. Mais il dit, ce qui m'intéresse, c'est de voir ta face. Je cherche à être le plus innocent possible pour voir ta face. Et dès le réveil, me rassasier de ton image. Voilà l'objectif final du chrétien. Et les vrais serviteurs ont toujours exigé cela. Et c'est ce que Moïse exige à Dieu. Il dit, ce qui est important pour nous, verset 9, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide. » Là, il anticipe déjà au cas où Dieu dirait, « Mais vous êtes mauvais, pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. » Voilà. « Je veux rester avec toi, Seigneur, plus que toute promesse de terre promise ou de je ne sais quoi. Plus que tout, ce que je veux, c'est que tu sois au milieu de nous. » Amen. Nous continuons du verset 10 au verset 17.
Verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois rentrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras point de dieux en métal fondu. »
Voilà, donc une fois, donc le Seigneur dit, je fais une alliance maintenant avec vous à nouveau, et je ferai encore des prodiges que vous ne verrez nulle part ailleurs. Effectivement, les prodiges qui vont suivre, eh bien, ça ne s'est jamais vu quelque part. Et ils ont encore, par la suite, vu l'eau sortir encore du rocher. Ils ont vu la manne qui continuait. Ils ont vécu encore des événements prodigieux de la part du Seigneur et qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Il dit, mais prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Ne te mélange pas avec les autres. Donc, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Donc, c'est toujours... Le but, c'est quoi? C'est que tu n'adores pas d'autres dieux. Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu. Donc, Dieu sait que la faiblesse du peuple, c'est qu'on lui fasse adorer un autre dieu. Et c'est ça qu'il prévient quand il dit garde-toi de te mélanger avec d'autres personnes parce que ça finira ainsi. Et c'est un peu un avertissement pour la suite, pour nous les chrétiens aujourd'hui, de nous garder, de faire attention à l'œcuménisme où les gens, dans une logique d'amour et de gentillesse, vont s'approcher de nous pour qu'on fasse les choses ensemble. Donc il faut qu'on soit ferme là-dessus pour dire non, on ne peut pas. Parce que là, ça va petit à petit nous amener à adorer d'autres dieux. Et c'est ça qui rompt l'alliance avec le Seigneur. Donc, il insiste là-dessus. Mais maintenant, là où nous ne sommes pas attentifs, c'est que nous prenons les choses telles qu'elles se sont présentées dans le passé et nous restons enfermés dans ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous disons quand même, non, nous ne tombons pas dans ça parce que nous n'adorons pas des statues, nous ne faisons pas ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'on doit regarder à ce qui se passe à notre époque. À notre époque, ce n'est pas les statues, ce ne sont pas les statues qui sont vraiment à la mode extraordinairement. Même dans le catholicisme, l'adoration des statues n'est pas si claire qu'elle était avant. Mais ça continue à exister, mais ce n'est pas si clair qu'avant. Donc aujourd'hui, la vraie divinité à la mode, c'est l'homme. Donc il faut qu'on s'adapte à ces commandements-là pour voir quel est notre piège d'aujourd'hui. Notre piège d'aujourd'hui, c'est plutôt l'homme. C'est plutôt l'homme qui est mis en avant. Et nous devons faire attention à ne pas adorer d'autres humains d'une manière ou d'une autre, soit des pasteurs, soit des prêtres, soit des présidents, soit des grands sportifs. Donc aujourd'hui, c'est l'homme qui est mis en avant. Il faut faire attention. Soit soi-même aussi, tu deviens ton propre Dieu. Donc il faut faire attention à cela. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément autour de nous des théraphimes, des gens adorés de faux dieux. Non, aujourd'hui, le Dieu à la mode, c'est l'homme. À tel point que nous sommes en train de nous diriger vers le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'ajouter des choses électroniques à l'homme pour le rendre plus fort dans beaucoup de choses, plus durable. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous dirigeons vers ça, le transhumanisme. Et donc l'homme ne sera plus homme, mais homme-machine. Donc il faut faire attention par rapport à l'adoration des humains. Que ce soit toi-même, que ce soit quelqu'un d'autre, il faut faire attention, il faut rester prudent par rapport à ça. C'est un piège pour nous aujourd'hui. Verset 18.
Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout prominé m'appartient. Même tout mâle prominé dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le prominé de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout prominé de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles.
Voilà. Donc, un petit éclaircissement par rapport à tout ce qu'on peut dire sur la Bible, notamment qu'il y a des contradictions. Là, par exemple, on dit, l'Éternel dit à Moïse au verset 27, écris ces paroles. Et au verset 28, c'est écrit, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. Donc, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce que Dieu écrit, c'est les 10 paroles, les 10 commandements, mais le reste de ce qu'il énonce, c'est Moïse qui écrit. Donc il n'y a pas de contradiction. Et souvent, les gens lisent mal et ils croient qu'il y a des contradictions. Mais quand on lit attentivement, on se rend compte qu'il n'y a pas de contradiction. Voilà. Et le Seigneur rappelle au fait tous ces commandements qu'il avait donnés à Moïse autrefois. Il rappelle ça encore, verset 19, entre autres, il rappelle certaines fêtes. Il rappelle le sabbat, le travailler 6 jours. Voilà. Et il rappelle notamment au verset 19, tout premier-né, la dîme. m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Et plus tard, on verra que, au lieu de tuer ton premier-né, tu vas donner la dîme pour acheter le premier-né. Oui. Mais c'est un commandement important. On va revenir là-dessus. Tout premier-né. Oui.
Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que Jésus ait jeûné 40 jours et le fait que Moïse aussi, à ce moment-là, c'était une forme de jeûne aussi.
J'ai
Moïse,
pas compris.
En fait, on dit qu'il n'a pas bu et pas mangé pendant 40 jours. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec Jésus ou...
Un lien avec le Seigneur Jésus?
Oui.
Ah ben le lien est clair, c'est les deux personnes qui ont reçu la parole. Il n'y a que Moïse et Jésus. Donc là, Jésus et Moïse, pour recevoir la parole, il est 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Et le Seigneur, avant de commencer sa mission aussi, donner la parole, se donner en tant que parole, donner la grâce et la vérité, il fait aussi 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur. Mais il faut dire que, par exemple, là, on va y arriver, c'est là où c'est écrit 40 jours. Où, voilà. Ce n'est pas Moïse qui décide de faire 40 jours et 40 nuits. Il le fait comme ça, se fait tout seul. Voilà. Ce n'est pas comme après, c'est devenu une mode dans le milieu évangélique pour faire telle chose. Allez, 40 jours, 40 nuits pour faire telle autre chose. C'est l'homme qui décide. Alors que là, Moïse était parti voir Dieu. Et le temps de visitation de Dieu, ça a duré 40 jours, 40 nuits. Bon, je reviens sur le verset 19. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Nous rendons compte que même chez les païens, le premier-né est important. Même, souvent, les gens qui sont des premiers-nés se sentent mal aimés, même dans les familles païennes, parce qu'on insiste pour leur éducation, on insiste plus sur eux pour qu'ils soient corrects. C'est comme si, au fond, dans le cœur de tout homme, cet ordre-là est donné que le premier-né soit un fruit excellent pour Dieu. Donc on voit ça, ça continue même partout chez les humains. Le premier-né est vraiment, on met la pression sur lui, et surtout les gens qui épousent des premiers-nés, les femmes qui épousent des premiers-nés, elles souffrent beaucoup parce que tout repose sur le premier-né, parce que voilà, le premier-né a une grande responsabilité, et on insiste. Mais qu'est-ce qui vient gâcher souvent? C'est la femme qui va vouloir atténuer. Donc quand le papa ou la famille veut insister pour le travail sur le premier-né, la femme va toujours considérer que c'est son bébé et ça freine beaucoup. C'est pourquoi on voit certains premiers-nés rater leur trajectoire parce qu'il n'y a pas eu le travail naturel que Dieu veut qu'on fasse sur le premier-né. Ça ne s'est pas fait comme il faut parce que la femme a mis le bémol, a mis le bâton dans les roues. Et c'est important que nous tous nous comprennent. C'est le commandement de Dieu, le premier-né lui appartient. Et il y a quelqu'un qui a accompli cela, la maman de Samuel. Il a donné son fils. Le premier-né, c'était Samuel. Il a donné au temple. Donc, il faut comprendre que le premier-né appartient à Dieu. C'est une offrande à Dieu. Et donc, quand nous gérons mal le premier-né, on sera comptable un jour, au dernier jour. Donc, on sera comptable. Le Seigneur tient cela à cœur. C'est son cadeau, le premier-né. Et donc, ce n'est pas qu'il faut tout mettre sur lui, mais il faut être prudent avec le premier-né parce que c'est l'enfant de Dieu. Donc il faut insister pour que, et dans la prière, et dans les actes, pour que le premier-né soit vraiment, à la hauteur d'un sacrifice agréable à l'Éternel. Et souvent, quand on néglige ça, c'est pourquoi on voit toujours l'inverse. Soit on a un premier-né vraiment qui joue son rôle, soit il paraît comme un enfant parce que, quand nous, on n'a pas fait ce que Dieu a demandé, ben c'est le diable qui prend la place. Il commence à distraire et à faire ce que lui, il a prévu. Donc, il faut faire attention. Dieu dit, le premier-né, c'est à moi. Donc, il faut insister là-dessus et prendre en considération que c'est à Dieu. Parce qu'on a vu beaucoup, surtout les femmes, reculer quand on va les appeler au téléphone. Mais on l'a attrapé, il a volé dans tel endroit. Allez, la femme vient rapidement payer l'argent. Voilà. Au lieu de les laisser souffrir, de comprendre. Donc, c'est toujours. L'éducation du premier-né est importante. C'est un ordre de Dieu. C'est son fils à lui. Et on a un exemple concret. la maman de Samuel, qui, elle a donné l'exemple, elle a donné. Donc, c'est pour dire le commandement qui est là, qu'on rachetait par la dîme, mais elle a donné, elle a appliqué cela. Et on sait ce que Samuel est devenu par la suite. C'est important pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, quand vous en aurez, attention au premier-né, il appartient au Seigneur. Ce n'est pas qu'il faut le rendre adulte avant le temps, mais il faut être sérieux dans la gestion du premier-né, parce que ça ouvre une porte pour toute la famille. Voilà, versets 29 à 35.
Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel.
Voilà, donc Moïse commençait à mettre un voile pour que la gloire qui resplendissait sur son visage ne se voit pas. Voilà encore une attitude d'humilité. Oui, question derrière de la part de Moïse. Donc, à Dieu seul la gloire, et il mettait le voile pour que la gloire de Dieu ne se voit pas.
Question Internet. Le premier-né concerne seulement les enfants de sexe masculin ou également les filles aussi?
À l'origine, c'est quand même masculin, mais toutefois, on doit prendre au sérieux même les premiers-nés de sexe féminin. Bon, là, je vais raconter une anecdote. Dans l'imagerie catholique, on dessine Moïse avec une corne. Pourquoi on dessine Moïse avec une corne? Parce que le texte qu'on est en train de lire, où Moïse est sorti, donc on dessine Moïse avec une corne, avec les tables. Il tient les tables et il a une corne. Pourquoi? Parce que les termes hébreux qui veut dire gloire veut dire aussi corne. Donc eux, au lieu de, ils ont interprété donc Moïse est sorti avec une corne. Donc en réalité c'est la gloire et c'est pourquoi vous allez voir dans les images catholiques Moïse avec les tables et la tête cornue. Donc ça nous montre que quand on n'a pas tous les éléments, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc en réalité, la vraie traduction, c'était la gloire de Dieu qui resplendissait sur son visage. Eux, ils ont mis une corne à la place. Et Moïse, voilà, donc se mettait un voile pour que cette gloire-là ne soit pas clairement manifestée. Et l'apôtre Paul va nous expliquer plus tard que c'est ce voile-là qui a été mis sur les Juifs. Donc, pour ne pas comprendre clairement la parole de Dieu qui concernait le Messie, et qu'ils n'ont pas bien compris parce qu'il y a ce voile-là qui était sur Moïse. Après, bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il en parle aussi, l'apôtre Paul, de ce voile en disant que c'est ce voile-là qui a été mis sur Moïse. Ça a été c'est comme si ça a été mis sur tout le peuple à cause de leur tétutesse. Et ce voile-là est déchiré. Lorsque Dieu décidera que ça soit déchiré, les Juifs comprendront les choses clairement. Oui.
Est-ce qu'il y a un rapprochement qu'on peut faire avec ce texte et certains discours qu'on peut parfois entendre dans certains milieux chrétiens où quand il y a des personnes qui servent le Seigneur, les gens disent qu'elles manifestent une certaine gloire, il y a un certain rayonnement et lorsque ces personnes abandonnent le Seigneur, c'est comme si il y avait comme un, enfin c'est ce qu'on certains disent, hein, il y a comme un masque, c'est comme s'il y a une la gloire entre guillemets de cette personne-là. Enfin,
ah oui, oui, c'est la vérité. Nous, on voit beaucoup de gens dès qu'ils abandonnent le Seigneur et on les rencontre en ville, on va, ils deviennent vieux, donc on, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est pas la même personne. Hein. Mais là, cette gloire, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, en fonction de ta vie que tu mènes avec le Seigneur, oui, tu dégages la gloire. Mais maintenant, ce n'est pas forcément une lumière, mais c'est quelque chose d'inexplicable. Les gens sentent que tu es beau, tu es belle. Tu, voilà. Je ne parle pas de la beauté expresse par les maquillages, je ne sais pas quoi. Non, on sent que tu n'es plus... Il y a quelque chose de bien qui se dégage de toi. C'est pourquoi beaucoup de choristes dans beaucoup d'églises se font épouser rapidement. Parce que quand tu chantes, donc la présence du Seigneur est là, donc les gens te voient différemment. Et c'est vraiment, c'est une réalité. C'est une réalité, la présence de Dieu. Et il y a des gens qui ont vu carrément une lumière. J'ai lu des histoires de chrétiens persécutés. Le soldat est en train de le taper. À un moment, il lui dit, mais quelle est la lumière qui est autour de toi, là? Voilà. Donc c'est... Et le soldat arrête de taper. Il dit, je ne peux plus. Il y a une lumière qui est sur ton visage maintenant, je ne peux plus. Voilà. Donc c'est... Parfois, ça se manifeste physiquement. Mais en général, les gens n'arrivent pas à expliquer ça. Ils sentent seulement que tu es différent. Voilà, qu'il y a quelque chose qui les attire ou bien qui fait que tu brilles. Mais ils ne peuvent pas dire exactement c'est quoi. En général, c'est ça. Mais nous, comme on est dans le bain, molécules d'eau avec les molécules d'eau, on ne se rend pas compte que le frère est glorieux, la sœur est glorieuse. Donc, on a l'impression, ah, c'est... Or, place cette personne-là ailleurs, les gens vont voir la différence. Mais comme on est entre nous, les mêmes molécules, ben on n'apprécie pas. Mais qu'on te sorte d'ici, du milieu des enfants de Dieu, qu'on te mette ailleurs, c'est là que tu vas sentir l'étouffement, tu vas comprendre que oui, là c'est autre chose. Donc quand je suis avec les enfants de Dieu, je suis bien, c'est différent. C'est différent, ils ont la gloire de Dieu et ça met à l'aise. Ça met à l'aise. Maintenant, par habitude, on ne sent pas ça et on va insister sur nos petites différences. Ça enlève tout, quoi. Donc, mais quand on se concentre sur ce que l'enfant de Dieu peut apporter, on est vraiment heureux. Mais quand on commence à négliger que c'est un enfant de Dieu, on commence à regarder que les défauts, effectivement, on ne s'en sort pas. Verset 35, chapitre 35, nous, de 1 à 3.
Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. »
Voilà, donc insistance encore sur le sabbat, le 7e jour. Et nous avions expliqué que notre sabbat à nous, c'est le repos dans lequel nous sommes entrés lorsque Jésus nous a sauvés. Mais ce n'est pas seulement le repos dans lequel nous sommes entrés, mais c'est aussi la consécration. Ce n'est pas seulement le fait de marcher par la foi et non plus par la loi, mais c'est aussi, on entre dans une consécration, c'est-à-dire on appartient au Seigneur. Et donc quelqu'un, un chrétien qui vit sa vie comme s'il n'appartenait pas au Seigneur, est en train d'enfreindre le sabbat. Donc il y a l'appartenance au Seigneur, mais il y a aussi le repos de la vie par la foi et non par les œuvres. On doit insister là-dessus. À chaque fois que nous voulons forcer les choses, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas enfreindre le sabbat. Le sabbat veut que nous ayons foi en Jésus qui agit en nous et non pas que nous, on force les choses pour produire les fruits que le Seigneur attend de nous. Verset 4, à partir du verset 4, nous replongeons dans la construction du tabernacle. On avait déjà écouté les instructions sur cette construction, sur le tabernacle et les ustensiles, les éléments composant le tabernacle. Maintenant, à partir du verset 4, nous replongeons dans cette construction. C'est des choses qu'on pratique. Il n'y a pas, on ne va pas, comme on l'avait dit la dernière fois, donner des explications pour tout, mais on va quand même lire, parce que c'est la parole de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui vient du Seigneur.
J'ai une question.
Oui.
En fait, là, tu dis que notre sabbat, c'est le repos, ce que tu viens d'expliquer là, mais pourquoi ils insistent sur celui qui fera un ouvrage ce jour-là sera puni de mort?
Ça, c'est la consécration. Donc, on doit appartenir complètement à Dieu. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc, cette insistance-là, c'est pourquoi j'ai parlé, à chaque fois, je ne parlais que du repos. Aujourd'hui, je rajoute la consécration. À cause de cette insistance-là, c'est lui qui fera un autre ouvrage. Donc, en quelque sorte, le chrétien, non seulement il est dans le repos parce que Jésus-Christ a fait à sa place, à la croix, mais il doit vivre que pour Dieu. Vous ne vous 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes maintenant à Dieu à 100%. Donc la vie chrétienne ne peut pas se mener une partie, c'est-à-dire venir faire des activités et vivre sa vie autrement. Non, c'est toute ta vie qui est à Dieu.
Donc ce jour-là dont il parle, c'est le fait de servir Dieu.
D'être consacré totalement à Dieu.
D'accord, donc il ne faut pas vraiment le prendre comme certaines assemblées, les adventistes par exemple, consacrent ce jour-là vraiment pour le repos, quitte à laisser une bête mourir.
Oui, mais à chaque fois, oui, j'explique ça. Mais comme Paul fait la démonstration, il dit dans le psaume 95, il dit si le sabbat, donc vous pouvez lire le psaume 95, dans le psaume 95, parce que Paul n'est pas encore arrivé, Jésus n'est pas encore venu, déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume 95, David explique que le peuple n'est pas entré dans le repos. Parce que s'ils étaient entrés dans le repos, ils auraient arrêté le sabbat. Donc on va lire ça dans le psaume 95, on ne dirait pas ça. Psaume 95, Paul fait la démonstration pour dire que ce projet-là n'a pas été atteint. Et donc Dieu fixe un autre moment de sabbat. Voilà. Psaume 95.
Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.
Voilà. Donc, Paul va maintenant faire la démonstration au chapitre 4 d'Hébreux qu'on va lire. Donc là, Dieu est en train de dire, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Donc, ils ne sont jamais entrés dans le repos. Là, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, Paul nous explique ça dans Hébreux 4.
Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.
Donc il reprend le texte qu'on vient de lire de psaume 95. On continue.
Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlait Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour.
Voilà, donc Paul dit que le repos maintenant véritable, c'est aujourd'hui. Quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, reçois Jésus et aujourd'hui même tu entres dans le repos. Maintenant, il va clôturer avec le repos final, verset 9.
Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Voilà. Donc après, il y a un repos final de sabbat réservé. Donc verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc il y a à la fin du monde, on va se reposer de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ça, c'est le dernier sabbat. Donc il y a eu l'introduction, ce qu'on a lu et ce qui a été pratiqué chaque samedi. Maintenant, Paul explique que mais si Dieu a dit dans le psaume 95 que ce n'était pas du repos, ça, donc c'est que c'était. Il a réservé un autre jour. Le jour là, c'est quel jour? C'est aujourd'hui. Quand vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, quand quelqu'un croit en Jésus, aujourd'hui, il entre dans le repos. Mais ce n'est pas un repos, entre guillemets, total, parce qu'il y a encore la faim dans le monde, il y a encore les maladies, il y a encore les attaques démoniaques, il y a encore les tentations, il y a encore les tremblements de terre. Mais toutefois, il n'y a pas à se sauver par les œuvres. C'est quand même du repos, puisque Jésus a déjà travaillé à notre place. Nous, on entre dans son repos, c'est le repos de Christ. Ça, c'est le deuxième sabbat, et le sabbat final, ça sera quand on sera au ciel, où il y aura nos œuvres qui parleront pour nous, tout ce qu'on aurait fait par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit ici sur terre, on se reposera de cela au ciel. Voilà, donc aujourd'hui, nous bénéficions du repos d'aujourd'hui en Christ, en attendant le repos final. Et donc, il y en a qui sont restés bloqués dans ce qui a été dit aux enfants d'Israël, alors que nous, nous avons Christ qui nous fait entrer dans le véritable repos, en attendant le repos total au ciel.
Il y a une question.
Oui.
J'avais une question en fait par rapport à l'attitude du peuple d'Israël. Parce qu'en fait, on avait vu dans les lectures précédentes que le peuple s'était fabriqué un veau d'or parce qu'il avait le besoin en fait de voir la représentation de Dieu. Et quand on voit maintenant quand Moïse, par exemple, il descend de la montagne avec le visage qui brille, le peuple a la crainte en fait de regarder Moïse. Et également quand Dieu les a appelés à monter sur la montagne, ils ont refusé d'y aller parce qu'ils avaient la crainte de voir Dieu. Du coup, je trouve que c'est un peu paradoxal parce que un coup ils veulent voir Dieu, donc ils représentent un veau d'or, et un autre coup quand Dieu, on va dire, ils peuvent le voir, ils ont la crainte et ils veulent pas y aller.
Oui, mais ils veulent voir le Dieu que eux-mêmes ils ont conçu. Mais ils ne veulent pas le voir le véritable Dieu, parce que le véritable Dieu leur fait peur. Je crois qu'on a reçu une pensée de jour aujourd'hui. Donc les gens, ils ne veulent pas en réalité de Dieu parce qu'ils ont le péché. Ils se disent, il va nous juger. Donc le véritable Dieu qui s'est manifesté à la montagne, quand tu le vois, directement tu te sens sale et tu ne veux pas le voir parce qu'il te condamne par sa sainteté. Alors tu te fabriques un Dieu qui va tolérer la fête, les bêtises, tout. Voilà, c'est l'homme en quelque sorte veut se construire son Dieu. Là, il est d'accord pour le voir, mais le véritable Dieu, il ne veut pas parce que le véritable Dieu le remet à sa place, lui montre sa petitesse, lui montre sa saleté. Et comme il ne veut pas se voir sale, alors il se conçoit son propre Dieu. C'est ça la... c'est pas une contradiction, c'est juste, c'est une continuité. Puisqu'il ne veut pas être condamné, il ne veut pas être jugé, ben, il se construit son propre Dieu à son image, à lui. Voilà. Nous continuons verset 35, chapitre 35, à partir du verset 4.
Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leurs cordages, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel.
Voilà, donc le cœur disposé et offrande volontaire, c'est ce qu'on retient. Il n'y a pas de pression. Moïse a présenté les travaux à effectuer et ceux qui avaient le cœur disposé ont amené des offrandes volontaires. Voilà, Moïse n'a fait que présenter, il n'a pas mis la pression aux gens, il n'a pas manipulé les gens par des promesses, il a présenté les choses et c'est Dieu qui devait toucher les cœurs. Donc il ne faut pas qu'on parle comme si c'était devenu notre œuvre et qu'on... Non, le Seigneur a prévu qui va donner, il connaît tout cela, c'est lui qui touche les cœurs, mais ça nous apprend vraiment qu'il faut juste présenter les choses et laisser Dieu toucher les cœurs. Il en a la capacité. Donc on voit que beaucoup de gens ont amené les choses exactement ce qu'il fallait. Nous continuons, chapitre 30, verset 30.
Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. »
On continue.
Bezaleel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bezaleel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire.
Amen, amen. Voilà, quand Dieu touche les cœurs, c'est toujours en abondance. Et ce qui est beau, c'est de voir les responsables dire « ça suffit ». À notre époque, là, amen. Tu vas trouver quel responsable dire « ça suffit ». On dit « mais non, laisse ça entrer, on discutera après ». Là, il dit « non, ça suffit, plus question d'offrande, on a tout ce qu'il faut ». C'est beau d'avoir de tels aînés à imiter. Et ça, c'est inscrit dans la Bible. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible. Parce que si tu lis les livres d'aujourd'hui, on va te donner d'autres enseignements. On va te dire, il faut prendre, on ne rejette pas. Ben non, mais là, ça suffit. Là, ça suffit. Ils ont dit, ça suffit. Mais on voit que quand Dieu touche les gens, c'est vraiment beau. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens un spectateur. Parce que Moïse a parlé une fois seulement. Mais après, le flot de dons continuait. Il est spectateur de ce que Dieu fait. Il faut, quand on est serviteur de Dieu, souhaiter. Hein, c'est vrai que Dieu nous utilise, on n'a pas le choix. Et ça donne l'impression que c'est nous qui provoquons ce qui va venir. Mais dans notre cœur, il faut souhaiter d'être spectateur de ce que Dieu va faire. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut souhaiter. C'est beaucoup plus agréable que d'avoir l'impression que c'est toi qui as produit ça. Parce que quand tu as l'impression que c'est toi qui as produit ça, tu ne sais pas. Ça peut être aussi ta force de conviction humaine. Ce n'est pas forcément Dieu. Parce que Dieu nous a donné des talents aussi humains. Et on peut par tes talents humains, sinon les partis politiques ne fonctionneraient pas. Les gens donnent aussi aux partis politiques, puisque les gens ont des talents humains pour convaincre d'autres personnes. Les gens donnent au restaurant du cœur. Les gens ont des talents humains pour convaincre. Donc parfois, on peut convaincre par notre talent humain et non par l'action divine. C'est pourquoi un vrai serviteur doit être attentif quand Dieu le dit. Il sent qu'il n'y a plus rien à dire, il s'était. Parce que tu peux continuer et puis finalement, quelqu'un bouge juste parce que toi, tu as insisté. Moi, j'ai, au Canada, quand on était parti, on avait un orateur principal qui ressemblait à Benny Hinn, un Pakistanais. Et lui, il avait amené des livres, des DVD à vendre. Bon, malheureusement pour lui, moi, j'ai prêché avant lui et j'ai dit qu'il y avait des CD, des DVD gratuits. Donc, quand lui, il vient, le terrain est déjà miné. Donc, lui, maintenant, il vendait à $15 les DVD. Donc, pendant qu'il prêche, il dit, la suite, ça se trouve dans l'un de mes livres, là. Il arrête sa prédication, l'idée qu'il développait. Il dit, la suite, une idée intéressante, la suite, c'est dans le livre. La suite, le lendemain, les livres ne sont toujours pas vendus. Alors, il fait les soldes pendant la prédication. Bon, c'était 15, maintenant, ça sera à 10. Bon, les gens, personne ne se manifestait toujours pour... À un moment donné, il reparle encore de soldes pendant la prédication. Rien. Et comment il a eu les gens? Un témoignage, vous savez, moi, mon père ne savait pas lire, mais il achetait des livres chrétiens. Il disait, pour ses enfants qui vont à l'école, peut-être ça va les aider à devenir chrétiens un jour. Et aujourd'hui, on est 5 garçons dans la famille, les 5, nous sommes des pasteurs. Alors là, on a vu des gens commencer à s'élever pour aller acheter. Donc, il a réussi à convaincre les gens, mais par ces témoignages charnels. Mais ce n'est pas l'action divine. Donc, c'est pour montrer qu'on peut convaincre des gens. Et ce n'est pas bon que ça vienne de nous, que ça vienne du Saint-Esprit. Et souvent, il y a eu des événements étonnants où tu prêches quelque chose qui a un rapport vraiment qu'avec les chrétiens, ça ne parle pas de la conversion, ça ne parle pas du changement, c'est juste peut-être une édification aux chrétiens qui étaient là. Et tu vois quelqu'un venir dans ton bureau dire « moi, je vais me convertir à Jésus, donc j'ai été touché ». Mais tu te dis « mais dans tout ce que tu as dit, il n'y a rien qui concerne la conversion ». C'est là que toi-même, tu es observateur que de la réalité du Saint-Esprit. Ou des gens qui vont venir te dire, mais Dieu m'a parlé et je viens me repentir. Maintenant, quand il t'explique sa repentance, mais toi, tu fais la rétrospective de ta prédication, tu dis, mais je n'ai rien dit qui est en relation avec son problème. D'où il tient que c'est la prédication qui l'a touché. Alors que moi, je n'ai rien dit en fonction, qui concerne son problème. Oui, c'est là que tu deviens observateur. C'est très beau d'être observateur plutôt qu'acteur, voilà, de l'action divine, je veux dire. Donc, acteur, Dieu veut qu'on soit acteur, mais quand il agit, nous, on se rend compte qu'on est, c'est pas par nous, c'est lui qui a fait. On devient maintenant observateur, on passe de l'acteur à observateur. C'est très beau de passer de l'acteur à observateur avec le Seigneur, parce que ça te montre que finalement, c'est pas toi qui dois multiplier je ne sais quel effort pour toucher les gens. Le Saint-Esprit est tout-puissant pour le faire. Fais juste ce qu'on te demande de faire. C'est ça le repos dont il est question, le vrai sabbat. C'est-à-dire que tu sais que moi j'ai à faire ça et le reste c'est Dieu qui fera. C'est ça le repos. Donc tu es tranquille, tu n'es pas inquiet. Tu fais juste ton boulot. C'est très, très important de comprendre cela. Et les gens amenaient les offrandes. Moïse était étonné. Nous continuons à partir du verset 8.
J'ai une question.
Oui.
Là, dans les versets qu'on vient de lire, on nous dit que le cœur du peuple était disposé. Donc Dieu agit parce que le cœur était disposé. Où est-ce que lui dispose le cœur du peuple pour agir? Parce que qu'est-ce qui fait que certains étaient plus disposés que d'autres? Parce que là, on précise bien que tous ceux qui avaient le cœur disposé, parce que ça sous-entend qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui étaient
qui n'avaient pas le cœur disposé.
Qui n'avaient pas forcément le cœur disposé. Donc qu'est-ce qui fait que d'autres avaient un cœur plus disposé que...
C'est la dureté du cœur. L'esprit passe, c'est comme le vent, ça vient, nous sommes là, c'est comme le soleil, ça brille sur nous tous, mais ça ne va pas faire le même effet sur tout le monde. Voilà, c'est la même chose. Ça dépend de ton cœur pour que l'esprit transforme ton cœur et puisse travailler dedans. Ça dépend de la disposition de cœur. C'est très important. Si on est mal intentionné, on a nos préjugés, malgré l'action du Saint-Esprit, il y a un blocage. Donc... nous continuons.
Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble, les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle, on fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées, et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis, et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis, terminant un assemblage, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sur les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ses 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. On fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes les deux aux deux angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travailler et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain. Betsaleel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur, sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or, il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre, les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia, sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses, pour servir aux libations, il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles.
On va s'arrêter là, puisqu'on avait promis la dernière fois qu'il y aurait quand même des images. Je trouve que c'est un peu sec comme ça, sans des images, sans les images. Donc le mardi prochain, on aura des images à peu près de tout pour voir ce que ça peut donner, tout en sachant que les gens qui ont fait les images d'aujourd'hui, ce n'est pas Betsaleel, hein, c'est des gens qui ont essayé. Voilà. Mais c'est Betsaleel qui avait reçu... Betsaleel qui a reçu la vraie image, notamment un exemple simple, c'est les chérubins, qui peut, comme ce n'est pas des êtres qui étaient visibles, seul Betsaleel et Moïse ont reçu l'inspiration pour faire un chérubin. C'est des êtres angéliques. Donc, c'est les deux qui ont reçu l'image du chérubin exactement. Donc, ce que nous, on va voir, ça nous aide à réaliser la grandeur de tout ce qu'on lit. Et je voudrais revenir sur un élément qui a été dit sur Bézaleël, donc dans, au verset, au chapitre 35, verset 34. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, hein, de même qu'à Oliab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Donc non seulement Bézaleël avait le don de faire tout ce qu'on est en train de lire là, les ouvrages d'art, il avait aussi le don d'enseigner. Est-ce que c'est enseigner comment faire ou enseigner la parole de Dieu? Bon, ce n'est pas précisé. Mais c'est, je voulais dire que, voilà, il y a. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le don dans ce qui concerne le matériel, la construction du matériel, dans ce qui concerne les choses pratiques, qui n'a pas de don dans ce qui est purement spirituel ou dans ce qui concerne la transmission. Donc Dieu peut pourvoir à tout cela à une même personne. Donc il ne faut, il y a certaines personnes, dès qu'ils ont trouvé une tâche matérielle, ils se bloquent dans cette tâche matérielle. Peut-être Dieu les appelle à quelque chose de spirituel, ils se ferment complètement, ils restent dans ce qui est matériel et se ferment à l'appel de Dieu pour ce qui est spirituel, ce qui touche à l'âme, ce qui concerne le salut des âmes et la transmission des dons de Dieu. Donc c'est important qu'on soit attentif à tout ça, c'est pas parce que Dieu nous appelle à des choses pratiques matérielles que nous devons rester enfermés. Donc, on doit avoir l'esprit ouvert à tout ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu peut nous donner plusieurs dons à la fois. Ce n'est pas interdit. Donc, le Seigneur nous aide. Voilà, il y a une question derrière. Ah bon, la question est passée? J'ai répondu. Ah bon? Ok. D'accord. Donc, on va prier afin de bénir le Seigneur pour les exemples de Moïse, de Bézaleël, bénir le Seigneur aussi parce que nous sommes sauvés par grâce aujourd'hui, nous sommes dans le repos. Nous n'avons pas à construire des tabernacles tels que c'est expliqué là, dans le dur labeur. Jésus-Christ l'a fait pour nous et c'est une grâce. Et nous allons aussi, ce n'est pas encore fini, mais nous allons par avance bénir le Seigneur pour le tabernacle qui symbolisait l'endroit du pardon, voilà, parce que c'est là que, quand on parle de propitiatoire, c'est sur le propitiatoire, dont l'arche de l'Alliance était un coffre, et le dôme de l'arche de l'Alliance, c'est ce qu'était le propitiatoire. C'est un dôme sur lequel le souverain sacrificateur jetait le sang, qui devait apaiser la colère de Dieu et offrir le pardon au peuple. Donc c'est ça qui est en train d'être construit. C'est comme si Dieu est en train de construire le pardon des humains, de son peuple, à travers le tabernacle. Ce n'est pas pour le plaisir de Dieu, au contraire. Dieu est en train de construire le pardon des humains et cette construction, finalement, a été faite en Jésus. C'est lui le véritable tabernacle sur la terre. Oui, donc c'est extraordinaire.
Oui, pasteur, désolé, faut... on a lu tout à l'heure que dans le tabernacle, les chérubins étaient représentés. Donc, les chérubins, c'est les anges.
Oui, oui.
Mais dans quelque part de la parole de Dieu, on dit qu'il est écrit aussi qu'on ne doit pas représenter ce qui est aussi.
Voilà. Donc, un jour, on en a parlé. On a dit, c'est Dieu qui décide tout. Là, il a décidé de représenter. Il représente. Donc, comme il avait dit à Pierre un jour, ce que moi, je déclare pur, toi, tu ne dois pas le déclarer impur. Là, c'est lui qui décide. Voilà. Ok. Merci Seigneur, nous te bénissons vraiment pour ce rapprochement à travers ces enseignements. Nous nous rapprochons de toi. Tu te révèles à nous, Seigneur, dans ta justice, comme l'Éternel qui n'appelle pas le coupable innocent. Le coupable est coupable, mais tu es l'Éternel qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui manifeste son amour jusqu'à 1000 générations. C'est beau de t'avoir comme Dieu. Et quand nous comprenons le sabbat d'aujourd'hui avec Jésus, nous sommes heureux et nous voulons nous laisser porter par le Seigneur et non point faire des œuvres pour se valoriser, Seigneur. Aide-nous à accepter le salut par grâce et par la foi. Au nom de Jésus, nous te bénissons de ce qu'on a vu de ton action à travers les offrandes concernant le tabernacle. Quand tu touches les cœurs agissent. Seigneur, c'est un enseignement pour nous de ne pas insister, de ne pas manipuler les gens par des paroles pressantes, mais de présenter les choses et de te laisser agir, Seigneur. Merci aussi pour l'exemple que tu nous as donné en Betsaléel. Tu nous montres que tu peux inspirer des constructions physiques, tu peux inspirer des parcours humains, tu peux inspirer tout cela, Seigneur. Et en même temps, tu peux utiliser quelqu'un qui est habile dans les œuvres physiques, tu peux l'utiliser dans l'enseignement aussi, Seigneur, dans la transmission. Merci de nous apprendre tout cela. Et Seigneur, nous te bénissons pour finir pour le tabernacle, Seigneur, qui était la construction du salut de ton peuple. Tu construisais l'endroit où ils allaient obtenir leur pardon, parce que les tables de l'Alliance, les Écritures montraient comment ils devaient se comporter, mais le tabernacle était le lieu où ils allaient recevoir le salut, parce qu'ils allaient échouer à obéir aux Écritures et ils avaient besoin d'être purifiés et de recommencer à nouveau à obéir aux Écritures. Merci Seigneur, parce qu'on voit que la construction du tabernacle est sérieuse et précise. Tes instructions sont sérieuses. Ça nous apprend, Seigneur, que on doit te prendre au sérieux. On ne va pas faire les choses dans le bricolage, mais en esprit, en vérité, Seigneur. À toi la gloire, la louange pour tous tes bienfaits. Merci pour cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.